France Culture. Le journal, Diane Berger.
Il est 9h, dimanche 9 février, bon réveil à l'écoute de France Culture. La vie dans le plus grand dénuement et dans la peur à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Témoignage dans ce journal d'habitants marqué par la guerre entre l'armée de Kinshasa et les rebelles du M23. Le cessez-le-feu paraît plus fragile que jamais entre le Hamas et Israël. Les habitants sont sur le qui-vive dans les villages israéliens proches de Gaza, toujours traumatisés par l'attaque du 7 octobre 2023. Et puis, à l'approche du sommet sur l'intelligence artificielle de Paris, demain, France Culture s'interroge sur les effets négatifs comme positifs de l'IA. Nous ferons ensemble la rencontre d'une médiatrice culturelle qui utilise ces nouveaux outils pour enseigner la mythologie grecque aux plus jeunes. Un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'appel des dirigeants d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe après un sommet hier en Tanzanie. Sommet dédié au conflit entre Kinshasa et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Une guerre qui a provoqué le déplacement de plus de 500 000 personnes. Beaucoup s'étaient réfugiés à Goma, cette ville tombée aux mains des rebelles il y a tout juste 2 semaines. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux Sandrine Malon et Omar.
C'est dans cette école du centre-ville de Goma, balayée par la pluie, que Janine a trouvé refuge. Veuve et mère de 5 enfants, elle ne survit que grâce à l'aide humanitaire.
On a fui dès les premiers coups de feu. Notre maison a été brûlée, c'est pour ça que nous sommes venus vivre dans cette école. On est obligé de récupérer l'eau de la pluie, il n'y a pas d'électricité, on manque de nourriture, c'est très difficile.
La vie dans le plus grand dénuement, entouré de ses fils. Dieu merci, c'est le prénom de son cadet adolescent et déjà marqué par la guerre.
Ils ont bombardé, ils ont tué, et on cherche comment nous débrouiller pour nous faire évacuer. Ici, c'est trop risqué, vraiment.
La peur du M23 qui règne en maître à Goma, comme ici à Birere, un bidonville où les habitants ont fait leur retour. Apollinaire, un des leaders de ce quartier, a un message pour le président rwandais, Paul Kagame, par un des rebelles.
Paul Kagame, tu l'arrêtes d'attaquer les Congos. Les Congolais en ont marre vraiment. Assez de la misère, assez de viols, assez de l'agression, assez.
Chez nous au Congo, les gens souffrent.
Plus de 30 ans de souffrance, des millions de morts et l'espoir fragile de parvenir un jour à une paix durable.
Omar Waman avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Ajoutons que depuis 2021, une demi-douzaine d'accords de trêve et de cessez-le-feu ont été signés entre les deux parties. Des accords systématiquement rompus assez rapidement à chaque fois. Tension autour des échanges de prisonniers et d'otages entre Israël et le Hamas. Benjamin Netanyahou dénonce la mise en scène de la libération de 3 captifs israéliens hier, présentés à la foule sur une estrade à Gaza avant d'être remis à la Croix-Rouge. Et en Cisjordanie, l'ONG, le Club des prisonniers palestiniens, affirme que des familles de détenus ont été agressées par l'armée israélienne dans la nuit de vendredi à samedi, juste avant donc la libération de leurs proches. Toujours concernant Gaza et le Proche-Orient, il y a les mots et il y a la réalité. Les mots, ce sont ceux de Donald Trump, le président américain, qui propose de déplacer les près de 2 millions de Gazaouis loin de leur terre pour faire de cet espace au bord de la mer une riviera destinée aux vacanciers. Les mots et donc la réalité. Avec le cessez-le-feu, les Palestiniens du nord de la bande de Gaza peuvent enfin revenir chez eux sans contrôle. Un retour qui inquiète les Israéliens installés juste en face. Valentin Dunat et Jérémy Tuil se sont rendus à Netif Asara, un moshav, c'est-à-dire un village en partie communautaire. On écoute.
C'est le village le plus proche du nord de la bande de Gaza. 20 personnes ont été tuées ici le 7 octobre et forcément, dans ce contexte...
Je serais stupide de ne pas m'inquiéter. Le Hamas n'a pas changé de façon de faire. Le Hamas, c'est le Hamas.
Ila Fenlon est agricultrice et désormais armée.
Maintenant, ce que je souhaite, c'est que mon gouvernement et mon armée soient plus forts. Il y a des gens à 100 mètres de là où nous sommes qui feront n'importe quoi pour tenter de me tuer. Et moi, je dois tout faire pour que ça n'arrive pas.
Il y a donc les armes, les munitions en plus grand nombre dans ce village, mais aussi certains regrets. Nitsan a 83 ans, il parle français. Lui estime que les Israéliens devraient davantage communiquer avec leurs voisins.
quand tu apprends sa langue, tu l'invites chez toi à la maison, tu commences déjà à avoir des relations personnelles. Mais quand tu le détestes, quand tu l'abaisses, quand tu crois qu'il est bête, eh bien là commence le problème. Ça dépend de toi.
Vous l'entendez, hein, ici au plus proche de la bande de Gaza, on est loin, très loin d'estimer que la solution proposée par Donald Trump est viable et pertinente à la fois pour eux, Israéliens, et pour les Palestiniens de l'autre côté du mur.
Un reportage de Valentin Dunat avec Jérémy Thuile. À peine sorti de la séquence sur le budget, François Bayrou se lance dans un nouveau dossier inflammable, celui de l'immigration. Il ouvre le débat sur l'identité nationale quelques jours après le vote à l'Assemblée nationale d'une loi qui durcit le droit du sol à Mayotte. Mais le sujet divise au sein même de son gouvernement. Alors, dans un entretien publié aujourd'hui dans Le Parisien, le Premier ministre veut rassurer sur la cohésion de son équipe. Sonia Gobry.
Il n'y aura pas de conflit au sein du gouvernement sur les sujets d'identité, promet le Premier ministre. Pour lui, la question de l'immigration peut et mérite d'être traitée, mais avec une certaine méthode. Pas d'affrontement systématique, mais de la compréhension mutuelle. François Bayrou veut y croire. Il laisse une grande liberté de parole à ses ministres, dernier exemple en date, avec le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a relancé, sans l'avertir, le débat sur le droit du sol. Mais attention à la cacophonie. Je ne suis pas un garde-chiourme, prévient le Premier ministre. Chacun doit se maîtriser, autrement, poursuit-il, mériterait-il d'être au gouvernement? Et si cette mise en garde ne suffit pas, François Bayrou assure qu'il ne se laissera pas enfermer dans la seule question du droit du sol et les surenchères qui l'accompagnent. Message adressé aussi à la patronne des députés RN, Marine Le Pen, qui exige un référendum sur la question en lui reprochant au passage de trop blablater.
Au même moment, le ministre de l'Intérieur s'exprime de son côté dans le journal du dimanche. Tenant d'une ligne ferme sur l'immigration, Bruno Retailleau dénonce le nombre de personnes qui rentrent sur le territoire français. 500 000 chaque année si l'on additionne les premiers titres de séjour et les demandes d'asile. Ce serait trop, selon le locataire de la place Beauvau. Le président Emmanuel Macron prendra lui la parole ce soir sur France 2 avant le grand sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle prévu demain et mardi à Paris. Avant cet événement, le ministère de la Culture organise déjà tout le week-end des événements sur le sujet à la Conciergerie et à la Bibliothèque nationale de France. Bibliothèque où notre reporter Héloïse Roger a rencontré Maëlys, une médiatrice culturelle qui s'est emparée de l'IA pour faire découvrir la mythologie grecque aux enfants qu'elle encadre pendant ses ateliers.
L'intelligence artificielle à la portée de tous. Pour faire découvrir les héros et divinités grecques aux plus jeunes, Maëlys s'est lancé un défi, créer un jeu de cartes avec des images générées par l'IA.
J'ai commencé à m'amuser alors avec plusieurs sites, avec Leonardo IA ou ChatGPT, pour pouvoir voir si j'étais capable de générer des images et de faire quelque chose de cohérent. Parce que je voulais quand même avoir des cartes qui étaient esthétiquement belle pour les enfants.
Alors elle se lance. Pour sa première carte, elle veut représenter le foudre de Zeus. Et ça lui a demandé beaucoup de tests sur ChatGPT avant d'obtenir le résultat qu'elle voulait.
Je lui ai demandé de me représenter le foudre de façon comique, de façon un peu cartoon, légèrement cartoon, un peu cartoon, vaguement cartoon. Il a vraiment fallu que je travaille mon vocabulaire pour enfin trouver la bonne formule. Et une fois que je l'avais, je reprenais toujours cette image que je remettais sur le prompt en lui demandant de reprendre le style de cette image et de me représenter l'hydre, le cyclope, Zeus, Poséidon, pour pouvoir avoir une cohérence artistique sur le reste des cartes.
Et le résultat est là, les cartes sont travaillées, colorées, orange, jaune, bleu. En 2 mois, elle en a édité 150, un gain de temps, même si l'IA n'a pas réussi à tout représenter.
La massue d'Hercule, le terme massue n'a jamais été accepté par ChatGPT.
Parce qu'elle devait ressembler à quoi selon vous? Là, on voit un gros tronc d'arbre avec des feuilles et des branches.
Ça devait plus ressembler à un gourdin. Donc je ne les mettais pas que je ne l'ai même pas réellement mise en couleur.
Elle a ensuite testé son jeu sur ChatGPT avant de le proposer aux enfants.
Et ce qui est assez marrant, c'est de voir les enfants, lorsqu'ils réalisent que c'est des images générées par l'IA, ils sont très contents. Donc je pense que ça leur fait comprendre que c'est quelque chose que, s'ils ont envie de pouvoir créer un jeu de cartes, ils en sont aussi capables une fois qu'ils apprennent un petit peu à maîtriser les outils.
Et c'est aussi pour elle une bonne première introduction de l'intelligence artificielle dans la médiation culturelle.
Un portrait signé Héloïse Roger. Un signe positif pour Emilia Pérez du français Jacques Audiard à moins d'un mois des Oscars. Il a remporté le prix du meilleur film européen hier soir à la cérémonie des Goya, l'équivalent espagnol des Césars. Une récompense malgré la polémique causée par d'anciens tweets de l'actrice principale Carla Sofia Gascón, accusée d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes. La météo pour terminer, c'est toujours très gris, pluvieux même sur la façade atlantique et dans une partie des terres. Les températures dans les pleine ce matin, entre 1 et 5 degrés sur les deux tiers nord, jusqu'à 8 degrés plus au sud. Cet après-midi, il fera autour des 7-8 degrés pratiquement partout, jusqu'à 15 degrés sur la Méditerranée et le Pays Basque.